décidé d'élever le niveau de secours. Vous écoutez donc une petite musique de nuit, menuet de Mozart, par l'orchestre dirigé par Bernard Thomas, dans l'abbatiale Saint-Géraud à Aurillac. J'aperçois au fond de l'amphi Jean-François Zigel qui vient vers nous. Oui, Jean-François.
Des menuets, il y en a de toutes les sortes. Il y en a par exemple des plutôt lents, des pompeux, comme celui de la symphonie Hafner. Alors qu'il y en a aussi des très rapides, comme celui de la petite musique de nuit.
Oui, merci Jean-François, mais nous avons cours. Merci Jean-François, nous avons cours. Et un cours au demeurant très important, puisqu'il s'agit d'un chapitre 4 sur la responsabilité du fait des accidents de la circulation. C'est un régime spécial de responsabilité qui fait suite aux trois régimes de droit commun que nous avons envisagés. La responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait des choses et la responsabilité du fait d'autrui. Évidemment, j'espère que vous allez toujours bien et que vous vous adaptez à cette nouvelle méthode d'enseignement à distance. J'ai toujours d'excellents retours de la part de vos chargés de TD et je profite de ce podcast pour les remercier les uns les autres, l'ensemble de l'équipe pédagogique qui fournit un travail de qualité exceptionnel, remarquable, dévoué, extrêmement consciencieux et, j'allais dire, au niveau des étudiants. Je suis extrêmement heureux et satisfait de voir que vous continuez à progresser malgré la difficulté de la situation, malgré la difficulté pour vous de travailler dans une telle situation. Et évidemment, sachez que l'équipe pédagogique, l'ensemble de l'équipe pédagogique est entièrement dévouée à la réussite de votre année universitaire et dans le même temps au plaisir et à l'intérêt que vous pouvez porter au droit en général, au droit des obligations en particulier. La responsabilité du fait des accidents de la circulation est soumise aux règles spéciales issue de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. C'est une loi spéciale, elle est autonome, ce qui signifie que lorsqu'un dommage est la conséquence d'un accident de la circulation, c'est cette loi qui s'applique à l'exclusion du droit commun et donc à l'exclusion de tout autre texte. Cette loi a mis très longtemps à voir le jour. Il faut donc envisager en section 1 son origine avant d'étudier son domaine d'application et ce qui fait sa spécificité, à savoir le sort de la victime que nous étudierons en section 3. Section 1 donc, les origines de la loi du 5 juillet 1985. Le premier point, c'est celui qui concerne l'évolution des idées. Cette loi a mis 20 ans à voir le jour, entre le milieu des années 60 et 1985. Elle a été l'objet de discussions extrêmement importantes, de controverses, de débats. Et au fond, il a fallu que les esprits s'acclimatent à cette loi spéciale dont nous verrons un tout petit peu plus loin les particularités. Et vous verrez les raisons pour lesquelles le droit français n'a pas été facilement réceptif aux évolutions des idées qui ont guidé la réforme des accidents de la circulation. Ces accidents, vous le savez tous, ils sont l'un des grands fléaux du XXe siècle. Ça fait bien longtemps qu'il est apparu nécessaire de protéger les victimes d'accidents de la circulation, surtout celles qui se trouvent exposées aux véhicules sans en avoir la maîtrise. Les piétons, les cyclistes, les passagers. Initialement, vous le savez, on a utilisé le principe général de responsabilité du fait des choses. C'était sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, que se trouvaient réglés les litiges relatifs à des accidents de la circulation. Vous vous souvenez que la petite Lise Gender a été écrasée par un camion qui livrait du lait. Vous vous souvenez aussi que l'arrêt Franck est rendu en matière d'accident de la circulation. Mais il est très vite apparu que la responsabilité générale du fait des choses n'était pas adaptée au règlement des accidents de la circulation et qu'il convenait d'ériger un corps de règles spécial. La raison majeure, c'est que la victime de l'accident, contribue souvent à la réalisation, de son dommage dans le cadre de l'accident de la circulation. Et à partir du moment où la victime contribue à la réalisation de son dommage, elle risque de se voir opposer sa propre faute, ce qui diminue d'autant l'indemnisation à laquelle elle aura le droit. Voilà pourquoi certains esprits ont considéré qu'il fallait sortir du cadre de l'article 1384 alinéa 1er pour éviter que la victime se voie opposer sa propre faute et qu'elle en subisse une limitation de son droit à indemnisation. Dès 1964, un travail législatif fut engagé en ce sens, sous l'égide d'un professeur de droit, le professeur André Tunck, qui était, je l'ai déjà cité, vous vous en souvenez sans doute, dans l'introduction au droit de la responsabilité, qui était un partisan de la théorie de la garantie, et donc de l'idée qu'il fallait offrir à la victime d'un accident un droit à la sûreté, un droit à la sécurité, et que l'on fasse tout ce qu'il est possible de faire pour admettre une indemnisation large et quasi automatique des dommages subis. Mais ce projet, rien qu'à le dire, je suis sûr que vous le mesurez, a très vite suscité l'hostilité. On lui a évidemment reproché d'être coûteux quand même. Si on doit indemniser quasiment systématiquement toutes les victimes d'accidents, il y a évidemment un coût très important qui pèsera sur la collectivité ou du moins sur les assurances. Et on lui a surtout reproché de s'abstraire de l'idée de faute. Et je vous l'ai déjà dit, les juristes français, l'esprit français est très dominé par la faute, très orienté par l'idée de faute. Et dans les années 60 et 70, les esprits n'étaient pas prêts pour la mise en place d'un régime de responsabilité détaché de toute idée de faute. Il faudra alors attendre 1981 pour qu'une nouvelle commission se mette en place et 1985 pour que la loi, dite loi Badinter, du nom du ministre de la Justice de l'époque, celui que vous connaissez pour avoir été à l'origine de l'abolition de la peine de mort, il faudra donc attendre 1985 pour que la loi Badinter du 5 juillet 1985 soit adoptée sous la pression de la jurisprudence. En effet, la jurisprudence a joué un rôle essentiel, et si vous avez mis un paragraphe 1 pour les développements relatifs à l'évolution des idées, vous pouvez mettre un paragraphe 2 pour caractériser le rôle de la jurisprudence. La jurisprudence a joué un rôle essentiel, et je dois dire que vous le savez, car j'en ai parlé déjà à deux reprises, vous en avez peut-être le souvenir, elle a joué un rôle essentiel car la Cour de cassation a rendu un arrêt extrêmement provocateur, l'arrêt Démar du 21 juillet 1982, arrêt provocateur qui a consisté de la part de la Cour de cassation à adopter une politique du tout ou rien en matière d'exonération de la victime. Je vais réexpliquer cet arrêt Démar, car il est évidemment fondamental. Vous avez compris que dans le cadre de l'article 1384 alinéa 1er, dans le cadre de la responsabilité du fait des choses, vous avez compris que lorsque la victime est pour partie à l'origine de son dommage, qu'elle a contribué au dommage qu'elle va subir, elle risque de se voir opposer sa propre faute, et sa faute, je l'ai dit, je l'ai redit, et je sais que je le répète sans doute beaucoup trop, sa faute peut être partiellement ou totalement exonératoire au profit du gardien de la chose. Vous avez compris aussi que dans le cadre du projet Tunk, dans la réflexion que mène André Tunk sur le fondement de la théorie de la garantie, avec cette volonté d'indemniser les victimes d'accidents de la circulation, de dégager un régime favorable à l'indemnisation de la victime, vous avez compris que ce que l'on recherche, c'est d'éviter que la victime se voie opposer sa propre faute et risque, ce faisant, d'avoir une indemnisation qui soit d'autant limitée. Qu'a fait la jurisprudence ? Elle a considéré que, dans cet arrêt Démarre, il fallait, au fond, retenir la solution préconisée dans le projet Tunk, retenir cette solution préconisée par Tunk, mais sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er. Elle s'est en quelque sorte substituée au législateur pour remédier à son inertie et faire en sorte de trouver une solution qui soit celle que la loi aurait dû retenir. La Cour de cassation a dit, à partir du moment où il y a une faute commise par la victime dans le contexte de l'article 1384, alinéa 1er, soit cette faute a les caractères de la force majeure et elle est totalement exonératoire pour le gardien, soit elle n'a pas les caractères de la force majeure et elle n'est pas du tout exonératoire pour le gardien. Ce qu'a fait la Cour de cassation dans l'arrêt Démarre, c'est supprimer la possibilité d'exonération partielle dans toutes les hypothèses où la victime a commis une faute à l'origine de son dommage, une faute qui n'a pas les caractères de la force majeure et une faute qui, logiquement, normalement, devrait être partiellement exonératoire. Voilà pourquoi on a dit, à partir de l'arrêt Démarre, c'est une politique du tout ou rien. Soit la faute de la victime a les caractères de la force majeure, elle est totalement exonératoire, soit elle n'a pas les caractères de la force majeure et elle n'est pas du tout exonératoire. Mais cette solution était au fond deux fois incohérente. Elle était incohérente parce qu'elle permettait à la victime de ne pas se voir opposer sa faute n'ayant pas les caractères de la force majeure sur le terrain de la responsabilité du fait des choses, tandis qu'elle continuait à pouvoir se voir opposer sa propre faute, n'ayant pas les caractères de la force majeure, sur le terrain de la responsabilité du fait personnel. C'était évidemment illogique que la faute de la victime ait des conséquences différentes selon qu'on est en matière de fait des choses ou en matière de fait personnel. Et puis surtout, cette solution était trop large. Elle valait pour l'ensemble du régime de responsabilité du fait des choses, pour le dommage causé dans le cadre d'un accident de la circulation, mais aussi pour le problème pouvant provenir d'un pot de fleurs tombant d'un balcon ou de n'importe quelle autre chose. Or, le principe d'une exonération partielle de l'auteur du dommage n'est problématique que pour les accidents de la circulation, que dans l'hypothèse où précisément on veut favoriser la victime. Dans les autres hypothèses, il n'y avait pas de raison de mettre à néant la possible exonération partielle du gardien dans le cadre de la responsabilité du fait des choses. Bref, retenez que l'arrêt Démarre du 21 juillet 1982 était bien un arrêt de provocation. Retenez qu'il adoptait une solution à la fois incohérente et inique, dont le seul objectif était d'inciter le législateur à voter un texte spécial en matière d'accident de la circulation. Et retenez que cette provocation, elle est passée par la suppression de l'exonération partielle en cas de faute de la victime, n'ayant pas les caractères de la force majeure. Évidemment, à partir du moment où le législateur s'est mis en mouvement à adopter la loi du 5 juillet 1985, comme vous le savez, la Cour de cassation est revenue dans un arrêt du 6 avril 1987 sur sa solution de l'arrêt des mares pour à nouveau admettre la possibilité d'une exonération partielle et mettre fin à cette politique du tout ou rien dont l'objectif était uniquement d'inciter le législateur à intervenir. Section 2, le domaine de la loi du 5 juillet 1985. Je l'ai dit, vous le savez, c'est d'ailleurs dans l'intitulé même, au fond, de la loi du 5 juillet 1985, puisque cet intitulé, c'est « Loi tendante à l'amélioration de la situation des victimes », cette loi va mettre en place un régime spécial très favorable aux victimes d'accidents de la circulation. Et comme c'est une loi, j'ai dit aussi, autonome, qui est une loi spéciale applicable à l'exclusion de tout autre texte dès lors qu'on est dans le cadre d'un accident de la circulation, il est essentiel de connaître son domaine d'application, puisque toutes les fois qu'on est dans le domaine d'application de la loi, on doit l'appliquer et on exclut la possible application de l'article 1384, alinéa 1er. On a donc un texte spécial, première remarque, un texte très favorable, deuxième remarque. Il est donc fondamental de savoir quand ce texte s'applique. Le domaine donc de la loi du 5 juillet 1985, il est défini à l'article 1er de la loi et je vais vous lire cet article 1er que vous trouvez dans le Code civil sous l'article 1242. Cet article 1er dispose, vous savez qu'un article de loi dispose, les dispositions du présent chapitre s'appliquent même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Je sais que j'ai été trop rapide pour vous permettre de noter en dictée, mais je l'ai fait à dessein car je vais reprendre les conditions qui sont posées dans cet article 1er et qui délimitent la loi du 5 juillet 1985. Il n'y a donc pas besoin de noter l'article 1er, il y a surtout besoin d'en connaître les composantes. Hors série, avant de rentrer dans le paragraphe 1, vous aurez noté, j'y reviendrai dans un autre chapitre, vous aurez noté que cette loi s'applique aux victimes qu'elle soit transportée ou non en vertu d'un contrat. La loi s'applique donc aussi bien en matière contractuelle qu'en matière délictuelle. Mais reprenons donc les conditions qui sont posées par cet article 1er. Il faut d'abord être en présence, paragraphe 1, d'un accident de la circulation. Un accident de la circulation, c'est d'abord, grand A, un accident. Un accident, c'est un événement dommageable qui arrive fortuitement. La notion d'accident requiert un événement fortuit et un événement imprévisible. L'origine de l'accident est indifférente. Ça peut être un accident dû à une collusion, à une explosion ou même à un incendie du moteur du véhicule. Mais il faut un événement fortuit et un événement imprévisible de telle sorte qu'il n'y a pas accident toutes les fois que le dommage est volontairement causé par le conducteur. La Cour de cassation juge d'ailleurs que la loi n'est applicable qu'aux seuls accidents à l'exclusion des infractions volontaires. Mais la Cour de cassation est ici assez peu exigeante. J'en veux pour preuve un arrêt du 24 octobre 2019 de la deuxième chambre civile, 24 octobre 2019 de la deuxième chambre civile, arrêt très important puisqu'il est P plus B plus I, clignote de toutes parts, arrêt qui correspond à un pourvoi numéro 18-20-910. En l'espèce, il s'agit d'un conducteur qui s'arrête alors qu'il circule en voiture pour relever un scooter qui est à terre. Scooter qui appartient à quelqu'un d'autre Et au moment où il relève le scooter, qui doit être suffisamment lourd pour que cela provoque la blessure dont il se plaindra, en relevant le scooter, il va subir une rupture, dit l'arrêt, de la portion distale du tendon du biceps droit. Donc il va être blessé au bras, blessure qui est indéniablement liée à l'effort de soulèvement du scooter, dit la Cour de cassation, ou relève les juges du fond, repris en cela par la Cour de cassation. La question est de savoir, est-ce que c'est bien un accident de la circulation ? Quelqu'un qui relève un scooter trop lourd et qui se blesse au bras, a-t-il subi un accident de la circulation ? Alors, la Cour d'appel dit non, ça n'est pas un événement fortuit et imprévisible. C'est même une blessure qui résulte d'un acte volontaire. Elle n'est donc pas la conséquence d'un accident de la circulation. Cassation, en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que la victime s'était blessée en relevant un véhicule terrestre à moteur et qu'elle avait ainsi été victime d'un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi de 1985, la Cour d'appel a violé le dit article. Très franchement, j'ai beau lire et relire, le « ainsi » que je viens de pointer est à peu près la seule motivation et la seule justification de la solution. La victime s'était blessée en relevant un véhicule terrestre à moteur et elle avait ainsi été victime d'un accident de la circulation. Pourquoi ? On ne le sait pas. Voilà un arrêt de la deuxième chambre civile rendu dans une période où on nous dit qu'il y a un enrichissement de la motivation des arrêts de la Cour de cassation. J'avoue que cette motivation inexistante ne permet pas de comprendre réellement en quoi il y a ici accident de la circulation. Mais peu importe, c'est sans doute pour permettre une application large de la loi de 85 que la solution a ainsi été rendue. Il faut grand B un accident, mais il faut grand B qu'il y ait une circulation. Une circulation, ça veut dire que d'abord, le véhicule doit avoir été mis en circulation. Ça n'est pas le cas d'un véhicule qui, par exemple, n'aurait pas quitté l'usine de fabrication. Et puis le véhicule doit être destiné à se déplacer. La circulation est en effet définie de manière fonctionnelle, ce qui veut dire que il n'est pas nécessaire que le véhicule circule au moment de l'accident. Il doit être destiné à circuler. Il peut donc être en stationnement et il peut être aussi en mouvement. En revanche, un engin qui pourrait techniquement se déplacer, mais qui aurait été destiné à un autre usage par son propriétaire, par exemple le camion de pizza où vous allez parfois commander une calzone ou une margarita, eh bien ce camion de pizza n'est pas un véhicule en circulation, c'est un véhicule qui n'est pas destiné ici à circuler. Ce véhicule peut circuler aussi bien sur une voie publique que sur une voie privée. Il y a accident de la circulation sur un parking, sur un champ, sur une piste de ski et même dans un garage privé individuel, a dit la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mai 2014. Le véhicule peut d'ailleurs circuler sur une voie fermée à la circulation publique et dont l'accès aurait été interdit aux victimes. Par exemple, lors du tournage de Taxi 2, il y a eu un accident de la circulation sur une voie fermée à la circulation par arrêté du préfet de police, qui avait autorisé une cascade. La cascade a entraîné l'accident. Bien qu'on se trouve sur une voie fermée à la circulation par arrêté préfectoral, c'est bien un accident de la circulation qui est justiciable de la loi de 85. Je vous cite ici un arrêt du 14 juin 2012 de la deuxième chambre civile. En revanche, il n'y a pas d'accident de la circulation dans le cadre d'une compétition sportive et la situation vaut aussi bien pour ce qui concerne le déroulement de la compétition que pour les entraînements qui la précèdent. Voilà ce qu'est un accident de la circulation, l'accident de la circulation, c'est la première condition de l'application de l'article 1er de la loi de 85. Il faut, paragraphe 2, être en présence d'un véhicule terrestre à moteur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un véhicule terrestre à moteur ? C'est, dit-on, un engin qui se déplace sur le sol grâce à une force motrice. Évidemment, la voiture, évidemment, le vélo moteur, la moto, le scooter, mais aussi, dit la Cour de cassation, une tondeuse à gazon qui serait pourvue d'un siège sur lequel s'assoit son conducteur et qui serait pourvue d'un volant, constitue un véhicule terrestre à moteur. Pareil pour une mini-moto d'enfant. À partir du moment où elle est propulsée par un moteur, qu'elle dispose d'une faculté d'accélération, c'est un véhicule terrestre à moteur. Un engin, je viens de le dire, un engin qui se déplace sur le sol grâce à une force motrice. Quid, allez-vous me dire, quid, des trottinettes électriques. Les trottinettes électriques sont effectivement des véhicules terrestres à moteur. Il y a un texte spécial pour les trottinettes, qui est une loi de la fin de l'année dernière, qui a régi les mobilités diverses et variées que vous connaissez. C'est la loi du 24 décembre 2019, loi d'orientation des mobilités. Mais cette loi d'orientation des mobilités n'empêche pas qu'on puisse considérer que la trottinette est un véhicule terrestre à moteur, évidemment à partir du moment où elle est électrique. À ce véhicule terrestre à moteur, on ajoute les remorques ou semi-remorques qui sont attachées au véhicule lui-même et qui vont faire corps avec ce véhicule. Si l'accident a lieu du fait ou à l'encontre de cette partie du véhicule, concernant les remorques ou semi-remorques, la loi de 85 s'applique. Il y a toutefois une restriction dans l'article 1er concernant le véhicule terrestre à moteur. Il y a une restriction qui est importante car elle concerne les chemins de fer et les tramways circulant sur une voie propre. Les tramways sont exclus, tout comme les trains, en principe. Mais ils ne le sont qu'à la condition de circuler sur une voie qui leur est propre. Le tramway qui traverserait un carrefour ouvert aux autres usagers de la route, ne circule pas sur une voie qui lui est propre, et il relève donc de la loi de 1985. Et lorsque le tramway circule sur une voie qui est partiellement accessible aux piétons, parce que par exemple il y aurait au milieu des voies un passage piéton qui permet de traverser la voie, dans une telle hypothèse, on va prendre en considération l'endroit où a eu lieu l'accident. Si l'accident a lieu sur un passage piéton, alors on va considérer qu'il n'est pas dans une partie de voie qui lui est propre. En revanche, si l'accident a lieu dans une autre partie de la voie, séparée de la chaussée et séparée de la circulation, dans une telle hypothèse, on va considérer que, dans ce cas, l'accident a lieu sur une portion de voie réservée exclusivement à la circulation du tramway. J'insiste sur cette solution parce qu'elle est l'objet d'un arrêt du 5 mars 2020 de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, également un arrêt important pour voie numéro 19-11-411. Cet arrêt de la Cour de cassation permet de comprendre que la notion de voie qui lui est propre dépend de l'endroit où a eu lieu l'accident. En matière de train, comme vous le savez, il y a malheureusement de très nombreux accidents au passage à niveau. La Cour de cassation considère que même au passage à niveau, le train circule sur une voie qui lui est propre. La conséquence, c'est que les dommages causés par les trains aux usagers de la route qui traversent des passages à niveau relève d'autres solutions que de la loi de 85. La loi de 85 ne s'applique pas dans une telle hypothèse. Troisième condition extrêmement importante, j'allais dire pratiquement la plus importante, paragraphe 3, il faut qu'il y ait, pour que la loi s'applique, il faut que le véhicule terrestre à moteur soit impliqué dans l'accident de la circulation. Ce qui soulève la question de savoir que signifie l'implication, quelle est donc cette notion d'implication qui est au cœur du domaine de la loi de 85. Je voudrais bien insister sur ce point. Nous parlons du domaine de la loi, nous parlons des hypothèses dans lesquelles la loi s'applique, et par conséquent, lorsqu'il est question d'implication, il est question de savoir si la loi s'applique à un accident. La loi est applicable dès lors que le véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident. Et ce terme d'implication, notion clé de la loi, a suscité d'énormes difficultés. Vous vous souvenez qu'il y a en sous-jacent cette idée fondamentale au point d'être dans l'intitulé de la loi, d'essayer d'assurer une meilleure indemnisation des victimes, voire de permettre une indemnisation automatique des victimes. Et par conséquent, plus on veut favoriser la situation de la victime, plus on va avoir une interprétation large de la notion d'implication. Ce qu'il faut que vous notiez, j'allais dire presque en gros, en gras, c'est que l'implication n'est pas la causalité. Un véhicule peut être impliqué dans un accident sans en être la cause, sans en être à l'origine. Par exemple, imaginez un cycliste qui perd le contrôle de son vélo parce qu'il a trop bu, parce qu'il ne fait pas attention, et il fonce sur un véhicule qui est tranquillement à l'arrêt, à un feu rouge. Évidemment, ce véhicule tranquillement à l'arrêt n'est pas la cause de l'accident, mais ce véhicule est impliqué dans l'accident. Être impliqué, c'est en effet avoir un rôle quelconque dans la réalisation du dommage, ou encore être intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident. La jurisprudence dit « L'implication se définit comme l'intervention d'un véhicule dans la survenance de l'accident, d'une manière quelconque, à quelque titre que ce soit, même en l'absence de tout contact. » Vous avez donc bien noté, l'implication se définit comme l'intervention d'un véhicule dans la survenance de l'accident, d'une manière quelconque, à quelque titre que ce soit, même en l'absence de tout contact. L'implication est donc beaucoup plus large que la causalité. Un rôle passif suffit. Évidemment, au-delà de ça, l'exigence est très floue, elle est très floue. Mais il faut quand même, vous l'avez noté, que le véhicule terrestre à moteur soit intervenu dans la survenance du dommage, tant et si bien que sa seule présence sur les lieux de l'accident ne suffit pas à caractériser son implication. Je me sers ici, pour vous dire cela, d'un arrêt de la deuxième chambre civile du 13 décembre 2012. C'est un véhicule A qui est dépassé par un autre véhicule B, qui va ensuite percuter un véhicule C. Le véhicule A dépassé par le véhicule B qui percutera le véhicule C. Le véhicule A n'a rien à voir avec l'accident. Il n'est pas impliqué. Alors, on retrouve la casuistique, quand est-ce qu'il y a implication, pas implication, un petit peu comme on a débattu du rôle actif et du rôle passif de la chose. Vous vous en souvenez, puis vous en avez parlé en TD. Et voilà pourquoi, en cas de contact avec le véhicule, que le véhicule soit en déplacement ou à l'arrêt, en cas de contact, le véhicule est toujours impliqué. Là où il y a plus de difficultés, c'est en l'absence de contact. Et en l'absence de contact, il va falloir prouver l'intervention du véhicule terrestre à moteur. Par exemple, le rôle d'un véhicule à cause des phares qui vont éblouir le conducteur d'en face. Eh bien, le véhicule qui éblouit le conducteur d'en face, il est impliqué. Le véhicule qui étend des gravillons sur la chaussée avant le passage d'un autre véhicule et provoque du coup un dérapage, ce véhicule, il est impliqué. Le véhicule est impliqué, dit la Cour de cassation. Je cite un arrêt. Dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans la réalisation de l'accident de la circulation. Un rôle quelconque dans la réalisation de l'accident de la circulation. Cette notion d'implication, elle a soulevé des difficultés dans le cadre d'accidents dits complexes. Accidents complexes parce qu'il y a une pluralité de véhicules liés à une collision en chaîne. Une victime est successivement heurtée par deux véhicules. Par exemple, elle est blessée par le premier, elle est tuée par le second. Les deux véhicules sont-ils impliqués dans l'accident? Sont-ils responsables du décès? Ou le premier peut-il n'être tenu que des seules blessures puisque la victime a été tuée par le second véhicule? La Cour de cassation, dans le cadre d'accidents complexes, c'est-à-dire de collisions en chaîne, la Cour de cassation a opté pour la solution la plus favorable aux victimes. Elle peut s'adresser au conducteur de l'un quelconque des véhicules impliqués. L'un quelconque des véhicules impliqués, elle peut par conséquent agir aussi bien contre la voiture A que contre la voiture B. S'il y a pluralité des collisions, il y a en réalité accident unique. Je songe ici d'ailleurs à un arrêt de la deuxième chambre civile du 11 septembre 2014, un accident entre une voiture A et une voiture B. Un riverain vient porter assistance au conducteur de la voiture B et il se fait renverser par un troisième véhicule, la voiture C. La Cour de cassation va dire « Les voitures A, B et C sont toutes les trois impliquées dans l'accident. » au motif que la présence du riverain sur les lieux était consécutive à l'accident survenu entre les voitures A et B, et ce alors même, vous avez compris mon exemple, que le riverain est écrasé par la voiture C sans que A et B n'interviennent au moment où il se fait écraser. Cette solution vaut dès lors qu'il y a un enchaînement continu de collisions. S'il y avait eu une rupture temporelle, si la troisième collision ne s'était produite que dans un deuxième temps, il n'y aurait alors pas d'implication des deux premiers véhicules. Voilà donc les conditions pour que la loi s'applique. Alors s'il y a un accident de la circulation avec un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident, la loi s'applique et on va donc regarder le régime de la loi et par conséquent la section 3, la situation des victimes. On entre dans le cœur de la réforme et dans la question de savoir comment sont protégées les victimes. Vous avez compris que l'objectif de la loi était d'améliorer le sort des victimes. Vous avez compris que, toutefois, tous les dommages ne justifient pas que l'on ait égard à la situation de la victime, que l'on souhaite l'indemniser. Il y a toujours une distinction entre les dommages causés à la personne, et dans les dommages causés à la personne, le dommage corporel est évidemment le principal dommage, et les dommages qui sont causés au bien de la personne. La section 3, la situation des victimes, conduit donc à une summa divisio entre les dommages causés à la personne et les dommages causés au bien. Paragraphe 1, les dommages causés à la personne. C'est évidemment le cœur de la réforme. Vous avez compris que dans la législation contemporaine, de plus en plus, on fait attention aux dommages corporels. Vous avez compris que de plus en plus, il y a un droit spécial du dommage corporel par opposition aux dommages matériels. Dans la loi de 85, on ne parle pas de dommages corporels, on parle des dommages causés à la personne. Et dans le cadre des dommages causés à la personne, ni la cause étrangère, ni le fait d'un tiers ne sont des causes exonératoires. C'est un point important, je le répète, ni la cause étrangère, ni le fait d'un tiers ne sont des causes exonératoires. C'est l'article 2 de la loi qui le souligne. Ce qui peut être exonératoire, c'est la faute de la victime. Mais il faut distinguer selon les catégories de victimes, car le mécanisme même de la loi de 85 repose sur une distinction entre les victimes. Et il faut d'abord distinguer les victimes directes des victimes par ricochet. Grand A, les victimes directes. Alors, c'est le grand compromis. C'est le grand compromis, c'est la grande concession faite par le législateur de 1985 et que s'apprête d'ailleurs à refaire si jamais il a la possibilité de prendre un texte, que s'apprête également à refaire le législateur contemporain puisque la réforme envisagée de la responsabilité civile va reprendre cette distinction entre les différentes victimes. Ce grand compromis, il consiste de la part du législateur de 1985 à avoir fait une distinction entre les différentes victimes pour en favoriser certaines et en défavoriser, au moins par comparaison, en défavoriser d'autres. S'il y a une victime qui n'est pas favorisée, c'est le conducteur. Le conducteur, j'allais dire, est la victime de la loi de 85. C'est le maltraité de la loi de 85. Il est soumis à un régime extrêmement défavorable qui s'explique sans aucun doute par la pression exercée par un double lobby en 1985, le lobby des assureurs et le lobby des constructeurs d'automobiles. Ben oui, parce que à partir du moment où on discute en 85 d'une loi très favorable aux victimes, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'inquiète du caractère extrêmement coûteux du texte. Et on dit oui, alors évidemment, ça va coûter très cher d'indemniser les victimes, et puisque ça va coûter très cher, les assurances, les primes d'assurance vont augmenter, ça va coûter très cher d'être assuré, et l'assurance est obligatoire, et par conséquent, les gens vont décider de ne pas circuler en voiture parce que ça coûtera trop d'argent. Et ça inquiète non seulement les assureurs, mais à partir du moment où les gens décideraient de ne pas circuler en voiture, ça inquiète évidemment les constructeurs automobiles. Voilà pourquoi il y a deux lobbies extrêmement puissants dans les années 80 qui s'opposent à l'indemnisation des victimes, les assureurs et les constructeurs automobiles. Et le législateur les a partiellement entendu. Il a dit d'accord, d'accord pour que le conducteur, lorsqu'il est victime d'un accident à l'origine duquel il est, et donc lorsque le conducteur a commis une faute à l'origine de son dommage, la faute du conducteur va limiter, voire exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Comme c'est le cas sous l'emprise du droit commun de l'article 1384 à alinéa 1er, avant l'arrêt des mares, on opposait, vous le savez maintenant par cœur, on opposait à la victime sa propre faute. Eh bien, dans la loi de 85, le conducteur se voit opposer sa propre faute. Et cette solution a été adoptée sans sourciller. Et elle n'est d'ailleurs pas jugée contraire à la Constitution. C'est ce qui a été jugé dans le cadre d'une QPC mettant en cause l'égalité de traitement au détriment du conducteur. Passez votre chemin. Cette solution est valable. Elle est valable. Et le projet de réforme de la responsabilité civile qui intègre les accidents de la circulation dans son domaine ne dément toujours pas la solution. Alors du coup, vous avez compris qu'il fait mauvais d'être conducteur, puisque si l'on est conducteur et victime, alors on se voit opposer sa propre faute. Vous savez tous ce qu'est un conducteur. Vous savez tous que c'est celui qui est en train de faire fonctionner le véhicule terrestre à moteur, qui lui donne sa direction. On dit que le conducteur, c'est celui qui accomplit les gestes nécessaires à la conduite du véhicule. Et il en va ainsi si le véhicule est à l'arrêt. Le motocycliste qui fixe son casque sur sa tête est un conducteur. En revanche, et la casuistique commence, et on comprend qu'il y ait de la casuistique, puisque à partir du moment où il fait mauvais être conducteur, on va plaider sur la qualification de conducteur. En revanche, n'est pas conducteur celui qui descend, qui a été éjecté de son véhicule et qui retrouve à la suite de cette éjection une autonomie par rapport à l'éjection. Il y a une jurisprudence extrêmement sordide sur l'éjection du véhicule. Lorsqu'un conducteur est éjecté, qu'il se fait écraser par un autre véhicule, a-t-il eu le temps de redevenir piéton ? Pardon de cette question provocante, mais c'est bien la question de ce contentieux. S'il est écrasé dans le même mouvement qu'il est éjecté, il est toujours conducteur. Si en revanche, il est écrasé dans un deuxième temps par un véhicule qui passe, il n'est plus conducteur. Dans un accident complexe, il y a donc une casuistique qui s'est mise en place à la suite de la jurisprudence de la Cour de cassation et des débats sur la qualification de conducteur pour éviter à la victime de subir cette qualification. C'est évidemment une jurisprudence qui aurait dû être évitée et elle aurait pu facilement l'être à partir du moment où l'on n'aurait pas discriminé les conducteurs victimes, à partir du moment où on les aurait alignés sur le statut des autres victimes. Lorsque le conducteur est victime d'un accident de la circulation et qu'on lui oppose sa propre faute, alors l'article 4 de la loi permet de limiter ou d'exclure la réparation à laquelle il aura le droit. C'est évidemment une solution, je viens de le dire et de le redire, extrêmement difficile et pénalisante pour les conducteurs victimes. Qu'en est-il, deuxièmement, des autres victimes ? Les autres victimes, ce sont donc tous ceux ou toutes celles qui ne sont pas conductrices. Les piétons, les cyclistes, mais aussi les passagers du véhicule. Et cette fois, à partir du moment où ils sont victimes d'un accident qui cause un dommage à leur personne, ils sont protégés et fortement protégés par la loi de 85. Le principe, c'est qu'ils ne vont pas subir les conséquences de leur faute. C'est ce que prévoit l'article 3 de la loi. Et l'article 3 de la loi va faire une distinction entre deux types de victimes protégées. J'allais dire les victimes normalement protégées et les victimes surprotégées. Les premières, ce sont les victimes qui ont plus de 16 ans, moins de 70 ans, et qui ne sont pas atteintes d'une incapacité permanente ou d'invalidité au moins égale à 80%. Plus de 16 ans, moins de 70 ans, et une invalidité inférieure à 80%. Dans ce contexte-là, l'article 3, alinéa 1er, dispose que ces victimes sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que l'on puisse leur opposer leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable, cause exclusive de l'accident. Autrement dit, ces victimes, première remarque, ne peuvent pas se voir opposer leur propre faute. Mais deuxième remarque, elles peuvent se voir opposer leur faute inexcusable, cause exclusive de l'accident. Alors évidemment, vous comprenez immédiatement que toute la question va être de savoir qu'est-ce qu'une faute inexcusable commise par la victime d'un accident de la circulation. La Cour de cassation a très vite décidé, dans une série d'arrêts du 20 juillet 1987, qu'il faut connaître, 20 juillet 1987, elle a très vite décidé de retenir une interprétation très restrictive de la faute inexcusable afin d'éviter qu'il y ait des contentieux incessants des conducteurs ou bien des assureurs qui voudraient opposer à la victime sa propre faute et qui viendraient dire tel comportement révèle une faute inexcusable qui doit empêcher la victime d'obtenir une indemnisation. La Cour de cassation a dit ce texte de loi, il faut qu'il permette, comme le dit aussi son intitulé, une accélération des procédures d'indemnisation. Il faut qu'il soit favorable aux victimes. Et la meilleure manière de parvenir à ce double objectif, c'est de retenir une interprétation très stricte de la faute inexcusable. Elle l'a définie comme étant, je cite, « la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. » Je redis la définition. « La faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. » Cette définition a été reprise mot pour mot par l'Assemblée plénière le 10 novembre 1995. Elle est extrêmement favorable aux victimes. Elle est très stricte et très restrictive concernant l'acception de la faute inexcusable. Ni le piéton ivre, ni le passager perturbant la conduite du conducteur ne commettent de faute inexcusable. Et il faut vraiment le vouloir pour commettre une faute inexcusable. La faute inexcusable, c'est la faute du piéton qui s'engage sur l'autoroute à pied, de nuit, sans visibilité, par temps humide ou pluvieux, et qui va donc commettre cette faute volontaire d'une exceptionnelle gravité qui l'expose à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Les esprits français ont beaucoup de mal à comprendre cette solution de la Cour de cassation et considèrent que tout de même un piéton qui fait n'importe quoi en temps normal, qui traverse dans la ville sans regarder, qui est en train de faire un SMS en plein milieu de la route, qui fait pas attention, finalement c'est de sa faute et il ne faudrait pas l'indemniser et on devrait pouvoir lui opposer sa propre faute. La solution, c'est l'inverse. On a choisi un régime de garantie de la victime. On a choisi de limiter au maximum l'opposabilité à la victime de sa propre faute. Et pour cette raison-là, on a admis de lui opposer sa propre faute que si elle est inexcusable. Et la Cour de cassation a entendu aller dans le sens de la philosophie du texte en retenant une conception extrêmement stricte de la faute inexcusable. La raison, pourquoi on fait ça ? On fait ça parce que le conducteur, lui, il est protégé par la carrosserie. Et le plus souvent, comme le doyen Carbonnier l'avait dit, c'est le pot de fer contre le pot de chair. Et puis, on fait cela aussi parce qu'il y a derrière cela des assurances. L'assurance de responsabilité, je l'ai rappelé, est obligatoire en matière automobile. Et c'est la raison pour laquelle on considère que les victimes doivent profiter d'un régime d'indemnisation qui leur est favorable. Cette faute inexcusable doit être la cause exclusive du dommage pour pouvoir être opposée à la victime de l'accident. Et puis, il y a une autre catégorie de victimes qui sont les victimes qui ont moins de 16 ans ou bien plus de 70 ans et qui sont atteintes d'une incapacité permanente ou d'invalidité au moins égale à 80%, victimes de moins de 16 ans, plus de 70 ans ou victime d'une incapacité permanente ou d'invalidité au moins égale à 80%, ce sont les victimes surprotégées par le texte. Celles-là, elles ne peuvent se voir opposer que leur faute intentionnelle. Cette faute intentionnelle, c'est une faute qui est encore plus rare, si je puis dire, et plus stricte que la faute inexcusable. En réalité, cette faute intentionnelle, c'est la faute volontaire, c'est pour le dire autrement, le suicide. Grand B, les victimes par ricochet. les victimes par ricochet, je vois que je suis en train de dépasser mes 50 minutes, mais je vais finir aujourd'hui la loi de 85. Les victimes par ricochet, elles sont visées à l'article 6 de la loi. Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages. Ça n'est pas la peine de le noter, mais je le redis, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages. La victime par ricochet, c'est évidemment, vous le savez très bien, la personne proche qui a un lien de parenté, un lien d'alliance ou des sentiments pour la victime directe qui va subir un dommage moral ou un dommage matériel, qui va donc agir sur le fondement de la loi de 85. Pourquoi je parle de la victime par ricochet ? Parce que toute la question est de savoir quelle est la manière de traiter cette victime par ricochet par rapport à la victime directe. Et en clair, faut-il que la victime par ricochet emprunte le statut de la victime directe ? La victime par ricochet doit-elle être traitée comme la victime directe ? La réponse, c'est oui. La victime par ricochet obtient réparation de son dommage en fonction du régime de la victime directe et elle peut donc se voir opposer les mêmes exceptions que la victime directe. Par exemple, si la victime directe a plus de 70 ans, mais finissez ma phrase, si la victime directe a plus de 70 ans, c'est une victime super protégée, on peut lui opposer uniquement sa faute intentionnelle, eh bien la victime par ricochet ne pourra se voir opposer que la faute intentionnelle de la victime directe, etc., etc. Il y a toutefois eu une petite complication pour les victimes par ricochet conducteur. La victime par ricochet conducteur, j'en vois qui froncent les sourcils, qui disent de quoi ils parlent. Alors, c'est facile à imaginer. Malheureusement, on est à l'intérieur d'un véhicule. Le conducteur subit un accident de la circulation. Dans le cadre de l'accident de la circulation, l'un des passagers décède. Ce passager est un parent du conducteur. Le conducteur est une victime par ricochet du dommage subi par la victime directe qui est le passager. Le conducteur, quid s'il a lui-même commis une faute à l'origine de l'accident ? Peut-on opposer au conducteur sa propre faute lorsqu'il agit en tant que victime par ricochet, demandant une indemnisation pour le dommage subi par un passager auquel on ne peut pas opposer sa propre faute ? Logiquement, la réponse devrait être négative, mais la Cour de cassation réunie en chambre mixte dans un arrêt du 28 mars 1997, on a décidé autrement. Le conducteur a bien le droit à l'indemnisation des dommages qu'il subit directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Et on lui oppose sa faute pour son propre dommage, dommage direct de conducteur, mais on lui oppose aussi sa faute en tant que victime par ricochet, lorsqu'il demande indemnisation pour le dommage subi par un passager du véhicule. C'est une solution extrêmement sévère qui consiste à opposer au conducteur sa propre faute dans les deux hypothèses, victime directe, victime par ricochet. Paragraphe 2, les dommages causés au bien. N'ayez pas peur, c'est un paragraphe qui prend 30 secondes. En cas de dommages causés au bien, il n'y a pas de régime de faveur. La faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. On retrouve ici le droit commun. La faute peut être soit totalement, soit partiellement exonératoire. On retrouve ici la philosophie même qui guide la loi, à savoir la protection des victimes pour leurs dommages corporels dénommés dommages à la personne, mais pas pour les dommages aux biens. Alors voilà, ce chapitre 4 est fini. Il est hors de question que je vous laisse sans une petite chanson. Je me dis que les deux précédentes étaient tout de même de nature à donner un petit peu le cafard dans une situation qui n'est déjà pas très gaie. Je vais essayer de ne pas trop en rajouter. Du coup, je vais vous faire écouter une chanson de Sacha Distel, chanteur des années 60 et 70. Très bon jazzman, assez playboy, beaux yeux, belle gueule, avec son heure de gloire à Saint-Tropez avec Brigitte Bardot. Il chante La belle vie. Est-ce que ça vous va, La belle vie, comme thème de chanson? Alors, c'est quoi La belle vie pour Sacha Distel? À l'écouter, on pense que c'est la vie sans amour, sans soucis, sans problème. On est seul, on est libre, mais au fond, pas du tout, parce que il le dit à la fin, le message vient à la fin. Il dit alors, pense que moi, je t'aime, et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai là pour toi. Ouh là là.
Sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie. On est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste. Et on traîne. Alors pense que je t'aime, et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai.